bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous avons ce soir le grand plaisir d'accueillir une romancière américaine, ce qui n'est pas notre quotidien tout de même, Catherine Hove, qui est historienne, qui est professeure à l'université de Cornell et spécialiste de la période du procès de Salem, donc, dont elle va nous parler, puisque nous, Français, nous ne connaissons pas bien peut-être ce qui s'est passé à Salem et comment cette histoire a commencé. Donc, le roman, pour le présenter très rapidement, mais c'est surtout Catherine qui va vous en parler, bien sûr, Conversion, c'est un roman qui est construit autour de faits réels, de faits anciens et de faits plus proches de nous. Je vous laisse le présenter.
Merci. Je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de m'inviter. Mm. En effet, quand je parle en anglais, je semble comme une femme de lettres, mais quand je parle en français, je semble comme une femme de 10 ans. Donc, je m'excuse. Le roman Conversion est né il y a 3 ans. Il y a 3 ans que j'habitais dans une petite ville aux États-Unis, dans l'État de New York. Peut-être, vous savez, l'université de Cornell, c'est une des universités de Ivy League. Et j'habite en Cornell avec mon mari et les professeurs de l'histoire du travail, choses comme ça.
Le droit du travail et l'histoire, l'inscription du travail dans l'histoire elle-même.
Oui. Et un groupe de jeunes filles habitant dans une petite ville juste près de notre ville, 1 heure par voiture peut-être, un jour tombaient dans une grande maladie. Ils ont mal à la tête, mal au corps, ils avaient des grands problèmes en parlant, des grands problèmes avec la santé. Et personne ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes filles. Il y avait beaucoup d'intérêt avec les télévisions, les nouvelles, les journaux. It was all over the news.
En fait, l'événement qui était un fait divers est devenu un événement médiatique et toutes les télés, les radios, etc. ont afflué pour savoir ce qui se passait dans ce lycée.
Une éditrice excellente. oui. À le même temps, j'étais en train d'enseigner une course de roman historique. Et mes élèves étaient en train de lire. Merci. Je m'excuse.
Non, it's fine.
Je m'excuse. Le grand pièce d'Arthur Miller, en anglais, s'appelle The Crucible. C'était une pièce qui discutait qu'est-ce qui se passe avec l'ensorcelé de Salem, les sorcières de Salem. Et ça me fait penser qu'il y a eu une grande comparaison entre les jeunes filles du présent à l'Héroïne New York et les jeunes filles du passé. Voilà, ça c'était la grande idée de Conversion pour le roman.
Vous connaissez très bien cette période donc du procès des sorcières de Salem parce que dans votre histoire personnelle, il y a quelque chose de peu banal. Vous êtes une descendante d'Elizabeth Hove.
Oui, c'est vrai. La famille de mon père habitait à le petit état de Massachusetts pendant 300 ans. Il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas. Donc, en effet, nous avons 3 sorcières dans la famille. Parce que personne n'est parti. Rien n'est passé. Un était Elizabeth Howe. On prononce notre nom de famille Howe, comme « How are you ?» Il y a une « et » sur le « sur ». Elizabeth est née dans une petite ville qui s'appelle Topsfield, Massachusetts. Topsfield, c'est juste près de Salem. En effet, Salem était le dernier grand procès d'un sorcière du monde. Vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de procès de sorcières en France, en Allemagne, en Angleterre, mais 100 ans avant que le procès en Salem. Salem était vraiment le dernier, jusqu'avant la révolution scientifique. Qu'est-ce qui est passé avec Salem? Il y avait un jour dans l'hiver 1692, une petite fille a tombé très, très malade. Elle était la fille du ministère du Petit Vie et aussi une jeune fille qui s'appelle Abigail Williams était tombée malade aussi. Elizabeth, c'était une des premières femmes qui avait accusé par être une sorcière. Elle était le sixième peut-être qui était tuée par l'État d'être une sorcière. C'était à cause de sa personnalité, en effet. Elle était un peu difficile, elle était un peu bizarre, elle fait les autres dans la vie uncomfortable.
Elle rendait les autres mal à l'aise.
Merci beaucoup. Elle avait une mauvaise réputation pendant quelques ans. C'est ce qui est passé.
Donc le roman commence par l'arrivée d'une jeune fille chez un révérend, le révérend Green. Cette jeune fille est un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Anne Putman, donc une jeune fille qui a participé justement au phénomène des dénonciations qui ont amené ensuite les procès pour sorcellerie. Et cette jeune fille vient là pour dire quelque chose qui fait l'effet d'une bombe. On a menti, on a raconté des histoires, et donc tout au long du roman, on va avancer comme ça, de révélation en révélation. Ce sont des parties assez courtes. Et en fait, vous donnez plutôt la parole aux jeunes filles d'aujourd'hui. Et il va leur arriver donc cette maladie dont vous parlez et que personne ne peut expliquer. Donc même les Français s'y sont intéressés, parce que vous verrez sur le net, il y a un article du Figaro, par exemple, qui parle des événements de Leroy. Pour la question.
Yes.
Oui. Alors en fait, c'est un
vous
roman.
Vous avez raison.
C'est un roman historique.
No, never without understanding. You want to be trialed as a witch?
It wouldn't surprise me. It wouldn't be the first time.
Je lui dis qu'il faut jamais dire oui avant d'avoir entendu la question, parce que sinon on finit sur le bûcher.
Absolument. L'histoire est là pour nous montrer qu'on n'est jamais trop sûr. Non. Donc, vous donnez surtout la parole, en fait, aux jeunes filles de notre époque, qui sont des jeunes filles qui travaillent beaucoup, qui sont sous pression. Comment vous avez amené, en fait, on frôle le fantastique parfois et on reste dans la raison. Alors, je ne veux pas dévoiler la fin en même temps. Moi, je marche sur des charbons.
C'est vous qui allez finir sur le bûcher si vous dévoilez la fin.
J'en ai conscience. Je me méfie.
J'ai pensé. Let me think about how to answer that question. Ou
en anglais, si c'est plus facile.
Non, non.
I can translate if you want to express it in English.
Okay.
It's okay.
Je fais un grand effort. Il faut pratiquer aussi. J'ai pensé de les jeunes filles du présent parce que pour deux raisons. J'étais une jeune fille moi-même. Vous savez, quand j'avais 18 ans, le procès de appliquer sur l'université, c'était le grand projet de ma vie. C'était le grand projet de ma mère, le grand projet de mon père. Et quand je suis entrée dans Columbia University, c'était comme gagner le loto, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai des élèves qui sont des jeunes filles qui travaillent très, très dur dans leur vie. C'est la même chose. Et à mon avis, c'est plus difficile aujourd'hui que quand j'étais jeune. Ça serait de plus en plus difficile, à mon avis, parce qu'il y a plus de gens de cet âge, et aussi parce qu'aux États-Unis, nous avons un grand problème d'inégalité. Donc, on pense que... faire une entrée dans une université très élite, c'est de gagner la clé d'être libre, d'avoir un bon travail, d'avoir une bonne vie. Ce n'est pas la vérité, mais les jeunes filles aujourd'hui aux États-Unis, elles pensent que c'est la vérité. Mmh. Et puis, les jeunes filles du XVIIe siècle aussi habitaient dans un monde très strict, un monde avec beaucoup de... c'était très strict avec les religions, c'était très strict avec la réputation. C'était un temps très difficile d'être une jeune fille et très here's that word again, hierarchical.
Ah, we have the same problem yet today. Find me another word.
Oh, okay. il y aurait un temps d'inégalité aussi, peut-être, du XVIIe siècle. Donc, les jeunes filles, on pense que c'est mieux d'être une jeune fille aujourd'hui, mais c'est vrai. Mais c'est difficile aussi. Et je voudrais... penser de ces idées dans le roman.
Ça se sent tout à fait. J'ai même le sentiment que c'est peut-être un roman assez féministe, finalement, qui oui. montre que les filles, elles se battent. Mm-hmm. Si elles ruent dans les brancards en 1706 ou en 1698, mm-hmm. c'est peut-être aussi pour s'affirmer.
Mm-hmm. C'est vrai. Mm-hmm. Le roman a un grand dialogue avec la pièce d'Arthur mm-hmm. Miller. Mm-hmm. Et une raison pour ça, c'est que Arthur Miller a une idée d'un homme, de la moralité d'un homme.
Du point de vue
d'un homme, John Proctor. Ça va bien, mais la plupart des gens qui étaient accusés pour être sorcières, c'était les femmes. Ouais. C'était les femmes. Et à Salem, il y avait trois groupes. Les femmes qui étaient accusées, les hommes qui étaient les juges, et les jeunes filles qui ont fait les accusations. Et je m'intéresse beaucoup dans la politique, le système politique entre les trois groupes.
Le thème de l'esclavage est aussi présent à travers la figure de Tituba, qui a été reprise chez nous par Marie Scondé, moi Tituba sorcière, entre autres. Mmh. On a l'impression là aussi que c'est une volonté de votre part de montrer l'inégalité par ce personnage mmh. qui représente la voix de l'Afrique. Donc c'est tout le mystère, c'est l'inquiétude aussi.
Mais Tituba n'était pas d'Afrique.
Oui, c'est vrai.
Elle était je ne peux pas l'expliquer en français. Elle était née en Barbados.
Oui, les Barbades.
Elle était probablement, en anglais on dit Indian. Et si on lit les documents du temps, le nom de famille pour Tituba s'est donné comme Indian. Et aussi, c'est le nom de famille de sa mari, John Indian. Les historiens, merci, à l'idée qu'elle n'était pas d'Afrique. Mm-hmm. L'idée de Tituba comme une femme d'Afrique se trouve dans la pièce d'Arthur Miller, oui. parce que c'était écrit dans les années 50.
50, oui. Donc on parlait de l'obsession de la réussite des jeunes américaines qu'on vit aussi chez nous dans les écoles de prépa, par exemple. On a des jeunes filles qui sont soumises à la pression. Donc on vous laisse découvrir hein, quelle est la cause des manifestations physiques, puisque sinon je serais pendue ce soir.
Le bûcher, on a dit, direct.
Sur le bûcher, direct. Ça me réchaufferait, mais bon, quand même. On a quand même, pour vous donner un petit indice, je peux quand même, des jeunes filles qui sont soumises à une tension telle qu'elles sont à la limite de la folie mmh. et qu'elles sont toujours en train de s'observer l'une l'autre. Donc ça aussi, c'est des souvenirs qui vous reviennent de votre vie d'étudiante.
Non, les personnages dans le roman, c'est très différent que moi. En effet, il y a un personnage dans le roman qui est jusque près de moi, mais c'est Miss Slater, oui.
Le professeur.
Le professeur, merci. Mais je m'intéresse aussi dans l'idée du rivalry.
La rivalité
entre les jeunes femmes. Parce que c'est une chose qu'on ne discute pas beaucoup. Je crois, c'est impoli peut-être de reconnaître.
C'est impoli de dire au grand jour qu'il y a de grandes rivalités entre ces jeunes filles qui par ailleurs sont soumises au stress. Hein.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui, yes.
Il y a un petit passage peut-être pour avoir une idée. C'est un moment où un professeur leur propose d'avoir un A facilement. Donc, une interrogation, surprise, elles disent, vous allez toutes réussir, vous allez avoir un A et ça va être des points en plus. Donc, vous dites, la perspective d'avoir un A était irrésistible, surtout pour celles dont l'admissibilité était en attente dans l'université de leur rêve, puisqu'elles avaient l'habitude de diminuer d'un dixième de point leur score au GPA à chaque semaine qui passait. Derrière leur regard soigneusement souligné d'eyeliner, une douzaine de filles faisaient tourner la roue et calculaient à toute vitesse la nouvelle moyenne de leurs points. Des scores inespérés dansaient dans leurs yeux. Certaines trahissaient un petit sourire mauvais sur leur jolie bouche, pleine de glosses fruitées. Donc on a ces jeunes filles parfaites, c'est un monde idéal, et puis derrière leur tête, ça calcule à toute vitesse pour dire « je vais passer devant elle, j'ai plus de chance ». C'est des stratégies épuisantes, en fait, qui sont mises en place.
Oui, c'est vrai. Dans le lycée, j'étais dans un lycée avec des garçons, mais c'était un lycée privé. Et je me souviens que les deux garçons qui étaient... qui veulent être valedictorian... ils ont fait le GPA tous les jours, juste comme ça. Tous les renseignements, tous les projets font une différence pour décider qui sera valedictorian. Okay. C'était très, très intense. I don't know if that's even a word in French. Intense. Intense.
Oui. Intense.
Okay.
Oui. Okay. You can say intense.
Intense. Oh, I just did. I just didn't know if it made sense.
Il y a un thème évidemment très présent dans ce roman, c'est l'histoire. Donc au-delà du compte-rendu de la confession d'Anne Putman, dont vous êtes servi des minutes aussi du procès pour rendre aussi l'atmosphère, il y a à plusieurs moments, on a l'impression, votre voix d'historienne qui donne des petits conseils ou un fil conducteur. Vous dites à un moment, ça vaut le coup de se poser la question quand on travaille sur un sujet historique, d'aller au-delà du récit dominant. Donc, il y a une quête de la vérité.
Quand there is a quest of the truth when you said that when you read something, you have to study all the point of view and not be focused on the main idea. It was the same extract as she read yesterday.
Yes.
Donc, je rajoute que c'est étonnant que vous citiez cet extrait parce que hier, nous étions à Lyon et on a aussi cité cet extrait où Catherine, en tant que étant la plus proche du professeur Slater, disait que ce qui m'intéresse quand j'enseigne à mes étudiants, c'est de leur montrer que de regarder autour, à la périphérie. Am I right?
Yes. De temps en temps, c'est difficile pour les élèves de comprendre que l'histoire, c'est un procès. Ce n'est pas une liste, ce n'est pas une liste de dates, de batailles, comme ça. C'est une narrative.
C'est une interprétation.
Narration, merci. De temps en temps, mon mari, il est professeur d'histoire, nous discutons que des gens pensent qu'il y a un grand livre de qu'est-ce qui est vraiment passé. Mm-hmm. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout. Donc, le roman pose l'idée que l'histoire, c'est une narration et qu'il faut penser qui a le pouvoir, qui ne l'a pas, et fait un choix en faisant le narratoire.
Le récit,
merci. Oui.
Non, it's fine. Elle parle vachement bien, non?
Mais oui. Si. Merci. Merci. Mon professeur de français au lycée, nous avons donné beaucoup de verb quiz pour faire les simplement, juste comme le passage que vous avez lu. Mais je n'ai jamais étudié pour le verb quiz. J'ai reçu une C dans ma classe de français au lycée.
Donc l'histoire, c'est une façon de lire le monde aujourd'hui aussi, de se l'approprier, de rester vigilant, en prenant en compte les leçons de l'histoire du passé. On regarde ce qui se passe aujourd'hui et on reste vigilant grâce à l'histoire.
Ah oui, je crois que c'est oui. Mais, c'est en particulier, quand on discute l'idée comme sorcière, sorcellerie, il y a des tentations de laisser l'idée de la sorcière dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des raisons, nous sommes rationnels, nous sommes mieux que les gens qui habitaient dans le passé, mais nous ne sommes pas mieux que les gens dans le passé. Les gens du XVIIe siècle, à Salem, les hommes qui étaient les juges, les femmes qui étaient accusées, ils sont très intelligents. Ils ont très
éduqués.
Ils étaient très éduqués. Ils faisaient le procès complètement légal. C'était complètement du propre. C'était complètement pas les autres procès comme ça. Et puis, ils habitaient dans un monde dans lequel les sorcelleries était rationnel. La religion utilise la sorcellerie pour expliquer quelques problèmes dans la vie, quelques systèmes politiques entre les gens. C'était complètement rationnel. Mm-hmm. Et à mon avis, c'est très important de ne pas oublier.
Mm-hmm.
De ne pas oublier cette idée que les choses que nous acceptons aujourd'hui, à la vérité, it's specific to our time. Truth is conditional.
C'est caractéristique de notre époque.
Oui, la vérité est conditionnelle de notre moment. Mm.
On est, pour revenir à la période de Salem, on est face à des jeunes filles qui, visiblement, sont très intelligentes, justement, qui manigancent, qui, à leur façon, pour peut-être changer leur quotidien aussi, se faire remarquer, parce qu'elles sont aussi un peu traitées en esclaves par leur entourage, décident de mettre cette histoire en place à laquelle elles vont croire petit à petit et se convaincre les unes les autres qu'elles peuvent changer quelque chose et ça les...
En discutant les jeunes filles à Salem, c'est difficile de savoir.
Ouais.
Parce que...
Quelle motivation
C'était peut-être différent l'un à l'autre. Ouais. Abigail Williams avait 11 ans. Dans la pièce d'Arthur Miller, elle avait 17 ans. Elle était une Jezebel, comme ça. Mais en réalité, elle avait 11 ans. Et elle était une... elle rendait service pour son oncle, le ministère de Salem. Et après elle est tombée malade, sa vie était mieux. elle ne travaillait pas. Tous les gens disent, oh, nous sommes très, we're very concerned about you.
Nous sommes très inquiets pour
we're
toi.
Very worried. Tout le monde va mettre ensemble et faire and pray.
Nous allons tous prier pour toi.
Oui, merci. So, Abigail avait une beaucoup de raisons pour dire qu'il y a des sorcières. Mais des autres jeunes filles, c'est difficile à dire. Anne Putnam, par exemple, elle était une vraie personne. Elle était la seule jeune fille de Salem qui était fait ses excuses. Quand elle était, on peut lire l'excuse dans le roman. Je le trouvais.
Oui, c'est une transcription
réelle. Oui, c'est une transcription, une vraie transcription des documents de le passé. Mais Anne Putnam, sa vie était assez différente qu'Abigail Williams. Donc, c'est difficile à dire.
Donc, vous n'en saurez pas plus parce que vous avez compris. Donc, on a d'un côté ces personnages historiques, d'un autre côté ces jeunes filles d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui, de 2012. Hein, donc, c'est tout à fait nos contemporaines, évidemment. Elles sont de jeunes adultes aujourd'hui. Et on a un roman très vivant, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est très dialogué dans la partie contemporaine. Donc je vous invite à découvrir ce qui est arrivé à ces jeunes lycéennes à Leroy. Alors, un côté très romanesque, vous faites situer l'action à Danvers,
ah oui,
dans le roman, qui est le nom qui a été donné en 1752, je crois, oui, à Salem.
Oui.
Donc ça se passe dans le même lieu, donc ça ajoute une tension dramatique très forte. On se dit « retour des sorcières ». Ou même problème de pollution,
oui,
ou réaction à un vaccin.
Oui, parce que quand il y aurait des problèmes avec les jeunes filles en Leroy, New York, les adultes auront l'idée que en premier peut-être c'est l'environnement, ouais, deuxième peut-être c'est le Gardasil vaccine, troisième on ne sait pas. C'était difficile pour les adultes. D'accepter que le problème, c'est la vie des jeunes filles. C'était un problème social, pas un problème de santé.
Chut, not too much. Don't spoil your book.
So much pressure. I'm going to crack.
No conversion, please.
Donc, mensonge ou
vérité. I wasn't discussing the roman, I was discussing Leroy à New York.
Oui, tout à fait. C'est différent.
C'est différent.
Nous sommes d'accord.
Well done.
Donc, en tout cas, dans le roman, qui ment, qui dit la vérité, de quoi relève cette histoire, vous le saurez en avançant au fil des pages de Conversion. Et maintenant, si vous avez des questions, avant que je ne remercie chaleureusement Catherine, que nous avons pris au vol juste après le train, et Chaim pour la traduction. Merci beaucoup.
Vous pouvez me trouver à l'Internet si vous voulez. Je suis sur Facebook et Twitter et Instagram et Goodreads et toutes les choses comme ça. Et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup de m'inviter.
C'est gentil à vous, Catherine, d'avoir fait ce bel effort.